Radio Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. Au sommaire de cette édition d'information, annonce par les procureurs de la Cour pénale internationale de réactiver les enquêtes sur les crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu. 4 jours après, la Convention pour le respect des droits de l'homme Ituri demande à cette instance de faire de même dans cette province. L'assainissement de la ville province de Kinshasa par la mairie depuis quelques semaines, les Kinois restent indifférents. Les uns et les autres proposent la mise en place des décharges publiques et d'un service d'assainissement efficace pour pérenniser la salubrité dans la ville. Notre invité est le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en RDC. Damien Mama passe en revue la situation de la pauvreté sur l'étendue du territoire national en marge de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Bonjour à toutes et à tous. 4 jours après l'annonce par les procureurs de la CPI de réactiver les enquêtes sur les crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu. Depuis le 1er janvier 2022, la Convention pour le respect des droits de l'homme réagit. La CRDH, section d'Irumu en Ituri, demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir également les enquêtes sur différents crimes commis dans cette province depuis décembre 2017. Cette structure le dit dans un communiqué de presse publié hier jeudi. Selon cette organisation, cette démarche permettra à la CPI d'avoir toutes les données sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des génocides commis en RDC. Les résumés de ces communiqués est lu par Christophe Mouniaderou, coordonnateur de la CRDH dans les territoires d'Irumu. Il est au micro de Martial Kizabiamungu.
Encourageons la CPI de continuer et à enquêter sur les différents crimes dont nous sommes victimes, car ces enquêtes vont rapprocher la CPI aux vrais données et aux vrais présumés auteurs. Et notre appel est aux autorités congolaises, politiques ainsi que militaires, de bien collaborer avec cette cour d'appel internationale, cour pénale internationale, et livrer toutes les hautes personnalités politiques et militaires qui sont impliquées de près ou de loin dans ces différents crimes, particulièrement ceux-là qui sont cités dans le rapport mapping. Et notre crainte est de voir que la CPI ne sera pas à mesure d'arrêter Kagame, vu que son pays ne fait pas membre des pays signataires des traités de Rome.
Pendant ce temps, le gouvernement s'engage à lutter contre le travail des enfants dans l'exploitation artisanale du cobalt et du cuivre. Le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, fait cette annonce 3 semaines après que le département du travail des États-Unis d'Amérique a ajouté le cobalt de la RDC sur la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants. Blaise Ndongala Mayanda nous en dit plus.
Dans ce document de 3 pages, le ministre des Mines assure que 95% de la production du cobalt congolais est réalisée conformément aux règles éthiques et sociétaires imposées par les gouvernements et les entreprises cotées en bourse. Kizito Pakabomba a également indiqué que le gouvernement congolais met déjà en place plusieurs initiatives visant à garantir une exploitation respectueuse des droits humains et de la protection de l'environnement. Parmi ces initiatives, le patron des mines congolaises cite entre autres la formalisation de l'exploitation minière artisanale, la création de la commission interministérielle sur le travail des enfants et les renforcements des contrôles et suivis dans les zones minières. Le ministre des Mines a en outre avoir affirmé que la RDC a retiré depuis quelques mois environ 13 587 enfants des sites miniers sur au moins 16 845 recensés au pays. À cet effet, Kizito Pakabomba a indiqué que ces enfants sortis des mines bénéficient de la prise en charge scolaire, sanitaire, psychologique et de l'enregistrement à l'état civil.
Le gouvernement congolais sollicite l'implication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ainsi que la mobilisation de la communauté internationale pour la gestion de ces plus de 7 millions de déplacés internes. C'est ce qui ressort de la rencontre mercredi à Genève, en Suisse, entre les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité et les hauts commissaires. Jacquemain Chabani dit avoir aussi demandé la facilitation du HCR pour une tripartite avec les pays voisins pour les retours des réfugiés dans leurs pays respectifs. On écoute Jacquemain Chabani dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Il nous a rassuré de son implication et nous allons continuer à suivre, parce que au niveau du gouvernement, nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations-là. Et il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations, mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Et nous avons aussi insisté sur la tripartite autour du HCR avec les différents pays qui sont concernés par la présence des réfugiés sur le sol congolais ou la présence de réfugiés congolais sur leur sol, de manière à ce qu'on se convienne formellement avec ces différents pays, que ce soit la Centrafrique, surtout le Rwanda.
Au Nord Kivu, deux semaines après les naufrages du MV Merdi, au large du marché des Kitoukou, ces marchés habituellement bruyants et colorés portent encore les stigmates de cette tragédie. Les étals sont moins fournis, les marchands restent profondément marqués par cet événement douloureux. Il faut rappeler que les victimes du naufrage étaient à la fois leurs fournisseurs et leurs clients. Aujourd'hui, les marchands des Kitoukou luttent pour garder les morales et continuer à survivre malgré les conséquences du naufrage. Rosalie Zawadi.
Jeudi matin, jour traditionnellement animé au marché des Kitoukou, l'activité est au ralenti. Mariam Mirindi, responsable du secteur agricole au sein du marché, explique les raisons.
Depuis le naufrage, nous avions du mal à trouver des marchandises. Les gens craignent de prendre les lacs. Avant, chaque boat était bien chargée des produits vivriers, mais aujourd'hui, nombreux n'ont pas encore repris leurs activités. Donc, nous avons du mal à trouver des marchandises comme avant.
Bahati Prince, secrétaire de l'administrateur de ces marchés, dit que seuls quelques armateurs sont actifs sur les lacs depuis le naufrage.
Avant le naufrage, on a enregistré même plus de 6 bateaux. Mais comme par exemple aujourd'hui, nous enregistrons seulement 2 bateaux qui sont arrivés. Et les bottes qui nous ravitaillent différents produits vivriers, ici au queue, c'était plein, mais aujourd'hui, on est en train d'enregistrer 9, alors que ça arrivait même plus de 30.
Face à la pénurie, certains marchands n'ont d'autre choix que de s'approvisionner au Rwanda. C'est pourquoi ils réclament avec insistance la réouverture de la route Goma-Minova. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En RDC, 9 des 26 provinces vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. C'est ce qu'affirme le représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo en marge de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté célébrée chaque 17 octobre. Parmi ces entités, Damien Mama cite les cas de la province du Sankuru. Se basant sur les statistiques des autorités congolaises, il révèle que 9 personnes sur 10 dans cette partie du pays vivent avec moins de 2 dollars par jour, comparativement à Kinshasa où c'est la moitié de la population qui est exposée à la pauvreté. Ces hauts fonctionnaires des Nations Unies attribuent ces phénomènes aux crises multiformes qui affectent les mondes. Ils se félicitent cependant des efforts déployés par les autorités congolaises à travers les programmes de développement de 145 territoires pour résoudre ces problèmes. Damien Mama est au micro de Ronéline Thibonira.
Pour éliminer la pauvreté, il faut des investissements simultanés dans presque tous les secteurs de la vie, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, l'investissement privé, les infrastructures de base, mais en ayant aussi à l'esprit les éléments de durabilité et s'assurer que toute personne qui court le risque d'être laissée de côté est prise en compte. Alors, donc, ces investissements simultanés demandent beaucoup de moyens, les moyens dont les États africains ne disposent pas généralement, mais quand on prend par exemple la RDC où l'État a quand même réussi à augmenter les recettes intérieures, à plus que doubler le budget général de l'État, ce sont des signes encourageants qui montrent que, avec un peu plus d'efforts en matière de mobilisation de ressources internes, mobilisation de ressources externes et aussi une bonne allocation de ces ressources dans les secteurs qui peuvent impacter durablement la vie des communautés, donc on a espoir que nous allons pouvoir faire des progrès un peu plus rapides. Mais c'est très clair que si les crises multiples qui ont plongé des millions de personnes dans la pauvreté continuent, ce sera extrêmement difficile.
Damien Maman, représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo et l'invité de ce journal, vous les suivrez sous peu. Ici à Kinshasa, les travaux d'assainissement de la ville, tels que les débouchages des caniveaux, l'évacuation des déchets et bien d'autres, ont débuté depuis quelques semaines dans certaines communes de la capitale. L'hôtel des villes et ses partenaires les font d'une manière progressive. Mais comment impliquer les Kinois dans l'assainissement de la ville? Élément de réponse dans ce reportage de Miradi Fouy.
Cela fait déjà quelques semaines que les travaux de nettoyage ont commencé dans certains quartiers et communes. C'est le cas à Ngiringiri, à Kasavubu, Kalamu et certaines parties d'Engaliema. Ces activités consistent à nettoyer les caniveaux, à retirer les bouteilles et autres objets qui empêchent l'eau de couler normalement. Cependant, au sein de la population, beaucoup semblent indifférents à ces activités. Certains Kinois que nous avons rencontrés décrivent ce problème.
J'ai vu les travaux d'assainissement qui ont été faits ici. Il n'y a même pas deux semaines, les immondices commencent déjà.
Le problème, c'est que les gens qui habitent sur le coin des avenues ont pour habitude de jeter leurs poubelles dans les caniveaux.
Certains estiment que c'est le manque d'assainissement efficace dans les communes qui ont amené la population à transformer les caniveaux en dépotoirs.
Les immondices dans les caniveaux ne finiront jamais tant qu'il n'y aura pas de poubelles publiques.
Quand on grandissait, il y avait les services d'assainissement et les poubelles publiques. Mais aujourd'hui, ces services n'existent plus.
Que faire pour emmener la population à changer la mentalité? Yves Bolombello, ancien cadre dans l'environnement, suggère ceci.
Que l'exécutif provincial intensifie la sensibilisation de la population, mais également l'application des sanctions.
C'est vendredi dernier que tous les bourgmestres devaient remettre chacun le plan de développement de sa commune à l'hôtel des villes.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, la gestion des déchets reste un défi majeur. Les poubelles publiques récemment installées par la mairie le long du boulevard Lumumba, l'artère principale de la ville déborde, laissant des sacs de déchets s'entasser au sol. Des opérateurs économiques et acteurs environnementaux mettent en garde contre les risques sanitaires que cette situation pourrait engendrer. Suivez ces reportages de Jean-Viette Isengue.
En Ituri, les ordures s'accumulent autour de poubelles installées dans les rues de Bounia, où l'on trouve fréquemment des déchets ménagers non conformes aux dispositifs prévus. Ce débordement est particulièrement visible au marché central de la ville. Germaine Afoyo, une commerçante du grand marché central de Bounia.
La poubelle publique est juste pour les ordures. Les autres y jettent même les déchets de ménage. Et les gens qui sont censés les dégager le font en retard.
Un autre commerçant, dont la boutique est située à proximité d'un point de dépôt des ordures, signale que pendant la saison de pluie, les déchets se déversent dans des rigoles, provoquant une odeur insupportable.
Nous voyons tous que quand ça se déverse, il y a une pluie qui arrive, les goudrons deviennent très sales et puis la rigole devient bouchée et nous sentons l'odeur qui dégage. Alors ça ne donne pas bien.
Dieudonné Maki, coordonnateur de l'ONG Ville Propre Service, s'occupe de l'assainissement de la ville, attribue cette situation à l'insuffisance des poubelles près du marché central.
Il y a une grande production de déchets et le nombre de poubelles est insuffisant. Ce qui fait que par jour, déjà, les poubelles sont remplies. Les gens ramènent même des déchets du marché central pour aller les déverser dans la poubelle, ce qui nous rend la tâche difficile.
Il est à noter que la ville de Bounia manque réellement des décharges publiques adéquates. Bounia, Jean-Viette Isengue, Radio Okapi.
Dans ce quatrième et dernier volet de notre série de reportages, les VIH-Sida à Beni Butembo et Lubero, une crise silencieuse au cœur de l'insécurité, nous mettons en lumière l'accès aux traitements antirétroviraux. Malgré l'insécurité et les déplacements forcés des populations, l'accès à ces médicaments vitaux reste largement accessible, offrant un immense soulagement aux patients séropositifs dans cette région du Nord Kivu. Martial Papimoukeba a recueilli les témoignages poignants de ceux qui, grâce à ces traitements, ont retrouvé espoir et force. Voici son reportage.
Contrairement à d'autres régions où la rupture des stocks d'antirétroviraux constitue un problème majeur, à Beni Butembo et Lubero, l'approvisionnement en médicaments est relativement stable. Plusieurs centres de santé sont régulièrement ravitaillés, permettant aux patients séropositifs de suivre leur traitement sans interruption. Voici le témoignage d'une femme sous traitement antirétroviral depuis 14 ans.
J'étais devenue très faible, je ne pesais plus qu'à 25 kilos. En 2010, quand j'ai appris que j'avais le
HIV à SIDA, je commençais les traitements antirétroviraux. Les médicaments sont toujours disponibles. Aujourd'hui, je suis un exemple vivant. Je suis forte, je peux travailler.
Cet accès régulier au traitement est le résultat des efforts constants des autorités sanitaires, bien que la guerre ait rendu la région difficile d'accès. Et notre patient raconte son expérience.
Bientôt 20 ans que je vis avec le VIH. J'avais 38 kilos quand j'ai commencé les ARV. Actuellement, j'ai maintenant 55 kilos. Les médicaments sont disponibles dans toutes les structures où je suis pris en charge.
L'accès constant aux traitements antirétroviraux permet à de nombreux patients de retrouver force et espoir, bien qu'ils doivent faire face à une autre bataille, la stigmatisation et les rejets sociaux. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le vice-président kényan Rigathi Gachagua a été destitué jeudi à l'issue d'une procédure inédite, point culminant de plusieurs mois de conflits entre le président William Ruto et son adjoint. C'est tard dans la nuit que les sénateurs ont reconnu Rigathi Gachagua coupable de 5 charges sur les 11 qui étaient retenues contre lui, provoquant sa destitution. Il suffisait à la Chambre haute de les déclarer coupables d'un chef d'accusation pour qu'il soit démis de ses fonctions. Rigathi Gachagua, 59 ans, notamment accusé de corruption et abus de pouvoir, devient le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la Constitution de 2010.
L'invité.
Notre invité est Damien Maman, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement en RDC. Dans un entretien avec Ronelyne Tubonera, ses hauts fonctionnaires de l'ONU passent en revue la situation de la pauvreté sur l'étendue du territoire national en marge de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Suivez.
Monsieur Damien Mamar, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons aujourd'hui sur Radio Okapi dans un contexte de tensions, bien sûr, et des crises humanitaires en Afrique et dans le monde. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est célébrée de manière particulière. Quel est l'état des lieux que vous faites en République démocratique du Congo?
Effectivement, le monde entier et la RDC sont confrontés à une multitude de crises aujourd'hui. Le monde n'a pas encore réussi à sortir des conséquences de la pandémie de COVID-19. Vous savez qu'en 2020 et 2023, il y a eu plus de 65 millions de personnes qui ont été plongées dans la pauvreté du fait de cette pandémie. Et la RDC n'est pas restée à l'abri. Et la deuxième crise à laquelle le monde est confronté et qui n'épargne pas aussi la RDC, c'est la crise du multilatéralisme, dont l'illustration même la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, renchérit les prix et rend les denrées de première nécessité plus difficiles à accéder pour les populations les plus pauvres. Et le monde a été quand même été habitué depuis la création de l'ONU en 1945 à des méthodes de résolution pacifique des conflits, mais il s'est fait que avec la crise du multilatéralisme, les États sont moins capables de résoudre les conflits par le dialogue et sont obligés de passer par les armes, ce qui affecte comme conséquence directe les personnes les plus pauvres. Et quand on prend l'effet combiné de ces différentes crises, un pays pauvre comme la RDC en paye aussi le prix fort et les populations qui sont concernées n'arrivent pas à répondre à leurs besoins quotidiens, surtout dans un contexte où les prix des denrées de première nécessité ont augmenté un peu partout. Ce n'est pas seulement en RDC, c'est partout en Afrique et c'est partout dans le monde.
Quelles sont les régions aujourd'hui de la République démocratique du Congo qui plongent dans une pauvreté assez alarmante et quelles sont les réponses qu'apporte aujourd'hui votre programme?
Lorsqu'on se situe à l'échelle provinciale et qu'on interroge les statistiques de la RDC en matière de pauvreté, on se rend compte qu'il y a à peu près 9 provinces qui sont vraiment en dessous de la moyenne en termes de personnes qui sont en mesure de faire face à leurs besoins quotidiens. Vous prenez une province comme le Sankuru où 9 personnes sur 10 vivent en dessous de 2,15 $, qui est le seuil de pauvreté par jour, comparé à Kinshasa où c'est à peu près la moitié de la population qui est confrontée donc à la pauvreté monétaire. Alors donc, quand vous comparez le Sankuru, la Mongala ou la Chuapa à Kinshasa, vous le comparez au Katanga, on se rend compte bien sûr que pour des organisations comme nous et aussi pour le gouvernement, il y a un besoin de pouvoir rééquilibrer ces écarts qui entrent certaines provinces, mais à l'intérieur des provinces aussi, les écarts sont importants entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et c'est pour cela que les investissements que le gouvernement fait en matière de protection sociale, en matière de santé maternelle, en matière d'accès à l'alimentation et aussi les infrastructures de base dont les populations ont besoin, comme les écoles, les centres de santé qu'on est en train de construire à travers le PDS 145 territoires, sont des leviers importants qui contribuent à réduire ces écarts et à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté sur toute l'étendue du territoire national de la RDC.
Les ambitions se multiplient. D'ici là, nous serons en 2030, ce qui nous donne l'écart de presque 5 ans et demi. Monsieur le représentant, des défis pour l'élimination existent et comment faire pour les mettre dans les oubliettes?
Pour éliminer la pauvreté, il faut des investissements simultanés dans presque tous les secteurs de la vie, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, l'investissement privé, les infrastructures de base, mais en ayant aussi à l'esprit les éléments de durabilité et s'assurer que toute personne qui court le risque d'être laissée de côté est prise en compte. Mais c'est très clair que si les crises multiples qui ont plongé des millions de personnes dans la pauvreté continuent, ce sera extrêmement difficile.
À cette journée internationale de lutte contre la pauvreté, quel message vous adressez à la population congolaise qui vous écoute à travers la radio Okapi?
La réduction de la pauvreté est possible et ça demande l'effort de tout le monde, de nous tous, le gouvernement, le secteur privé et tous les auditeurs qui nous écoutent. Parce que chacun ou chacune à son niveau peut apporter sa contribution à l'édifice de la nation congolaise.
Monsieur Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement ethnique dans sigle en RDC, Radio Okapi vous remercie.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa était à la mise en onde. Pele Kipela Mondo l'a préparé pour vous. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir écouté.